Mémoire vive,
présentée par Perrine Carvran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Et c'est une pièce de théâtre qui est au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, Train de pluie. Une pièce qui rassemble deux beaux textes sur la Shoah qui raconte l'absence, le souvenir et la déportation. Les auteurs ne sont pas des inconnus, il s'agit de Daniel Keane et de son texte « La pluie » qui évoque une femme à qui les gens confiaient des objets de leur vie quotidienne avant de disparaître dans des trains. L'autre texte est de Gilles Segal, « En ce temps-là, l'amour » fait le récit de la déportation d'un homme et de son fils, de leurs 6 jours passés dans un train et de la tentative du père de tout transmettre à son fils pour faire de lui un homme. C'est Catherine Hubaud et Marie-Laure Sperry qui ont mis en scène cette pièce que l'on peut voir à Paris au Théâtre Côté-Cour jusqu'en janvier. Avec nous pour en parler, Catherine Hubaud qui joue aussi dans cette pièce. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez rencontré ces textes et pourquoi vous avez eu envie de les mélanger ?
Alors d'abord, ça a été deux chocs vraiment importants pour moi. J'avais vu la création en 2001 au théâtre à l'Espace Quiron du texte de Gilles Segal, joué par lui-même. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a bouleversée et que j'ai adoré ce texte. Donc voilà, j'avais été lui dire d'ailleurs à l'époque. Et puis en 2004, j'ai assisté à un spectacle monté par Maurice Bénichoux à la Maison des Métallos, un spectacle qui s'appelait « Ce qui demeure », où il avait rassemblé toute une série de petits textes de Daniel Keane, et dont « La pluie », qui était le plus magnifique. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un des plus magnifiques de cet auteur. Et là aussi, bon, j'avais adoré ce texte, c'était en 2004. Voilà. Ensuite, avec la compagnie, on avait un accord avec un centre d'animation il y a 3-4 ans pour donner une lecture par mois avec deux comédiens et un musicien à chaque fois. Et j'ai eu l'idée de marier ces deux textes pour une lecture. Ça a été un moment très fort et les spectateurs, la réaction des spectateurs m'a impressionnée et m'a fait penser que oui, ça pourrait faire un spectacle. Après, tout le monde m'a dit non, là là, c'est difficile, etc. Mais j'ai vraiment eu envie de le faire et parce que j'avais la sensation que ces deux textes d'écriture très différentes allait servir de catalyseur l'un vers l'autre, enfin, qu'il y avait quelque chose dans marier comme ça l'huile et l'eau, enfin, quelque chose qui était très différent mais qui pouvait se répondre. Voilà, donc c'était, je pense, un coup de cœur.
Et vous aviez envie de travailler sur cette thématique de la Shoah, de la déportation ?
Alors, avec la compagnie, on est, enfin, depuis le départ, mais surtout depuis 2002, On a beaucoup travaillé à chaque fois sur des choses qui nous paraissaient importantes maintenant dans la société, c'est-à-dire, et je trouve vraiment, et c'est pour ça que j'ai monté ce spectacle aussi, c'est que pour être en lien avec des lycéens, avec aller dans des collèges, parce que ça me semblait très important de parler de ça actuellement, de ne pas l'oublier surtout, et surtout que ça puisse faire réfléchir, que ça puisse réveiller des consciences, et que, voilà, c'est bien évidemment, comme tous les gens de ma génération, on est complètement impressionnés, et c'est quelque chose qui, enfin, cet événement-là est quelque chose qui nous a fondés, qui est là d'une manière essentielle. Mais par rapport aux nouvelles générations, je pense qu'il y a une interrogation à se faire sur la transmission de la mémoire, à quoi ça sert, et en plus ces deux textes, et surtout celui de Daniel Keane qui s'interroge tellement sur la mémoire et sur l'oubli, me paraissait important.
Oui, alors c'est vrai que c'est étonnant quand on regarde cette pièce parce qu'on a la sensation que les textes se répondent, que c'est finalement deux versants d'une même histoire, ceux qui ont été spectateurs, passifs ou impuissants de cette histoire de la déportation et ceux qui ont été les victimes.
Oui, oui. Je suis flattée même que quelques spectateurs qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas lu le programme, pensent que c'est une même pièce. Et ça, c'est bien, que vraiment les deux personnages puissent réellement se rencontrer et réellement interagir l'un sur l'autre, et que ça puisse peut-être faire évoluer cette femme qui, au départ, elle ne sait pas, ou elle n'a pas voulu savoir, on ne sait pas. On garde l'ambiguïté parce que, justement, elle est fermante d'interrogation, cette ambiguïté. Elle est importante. Et le fait qu'elle rencontre cet homme qui, lui, va lui raconter tout ça, voilà, c'est un catalyseur. Je pense que c'est important que ça puisse faire s'interroger, quoi. Que cette rencontre très émotionnelle de deux personnages puisse poser des interrogations.
Et puis pour le spectateur, ça donne cette sensation que l'homme reprend l'histoire là où la femme l'a laissée, c'est-à-dire au moment, oui, où ces personnes montent dans le train, le récit de, oui, l'homme peut s'installer à ce moment-là. Donc on a la sensation d'avoir accès à ce qu'elle n'a pas vu.
Oui, et moi ce qui me touche énormément, à chaque fois que j'ai rencontré des personnes, par exemple, voilà, j'ai rencontré certains auteurs aussi qui ont vécu, ou qui sont fils de déportés, ou qui... Et moi, ce qui m'a toujours impressionnée, c'est la, je dirais, la découverte et la surprise de la réaction de ces personnes-là, qui apportent tout d'un coup une note de vie très importante, et non pas seulement de la désespérance, mais quelque chose de tellement fondamentalement accroché à la vie. Et je trouve que dans le texte de Segal, il y a ça. Et c'est ça que j'adore dans son texte. Je trouve ça formidable.
Alors si on parle un peu justement de ce que raconte cette pièce, on voit donc cette femme au départ qui raconte ses objets, la puissance évocatrice de ces objets qui disent la vie quotidienne. C'est une manière de parler de ce qui reste, ce qu'on doit conserver. Ça peut faire penser aussi à la question de la conservation, par exemple, des objets au musée d'Auschwitz. On sait qu'il y a des questions, oui, autour de ça. Cette question des objets et puis cette question du souvenir des gens, oui, voilà, de la mémoire qui se transmet, de la vie des gens.
C'est-à-dire que on passe, enfin, je crois, enfin, que le spectacle, il porte ce thème-là de les objets se dégradent et tombent en poussière, et par contre la mémoire, elle est la vie. Donc entre cette femme qui est restée avec ses objets et tout d'un coup qui se souvient des gens vivants. Je pense que là, il y a une très belle trajectoire. Et voilà.
Alors, est-ce que vous nous parlez aussi de l'autre texte, de ce texte qui raconte cette lutte absurde pour préserver la normalité dans un univers où tout est détruit, où tout est saccagé? Donc, c'est un texte qui est très fort, qui est très violent et qui joue aussi avec l'humour. C'est un texte assez particulier, ce texte.
Le texte de Segal, oui. Moi, si vous voulez, je revendique complètement, enfin, de s'accrocher comme ça à la vie, à l'humour, à mettre une distance. Et en même temps, ce que j'aime bien dans ce texte, c'est qu'il dit quand même les choses. Il ne les élude pas, il ne les passe pas sous silence. Donc forcément, ça produit un choc. Mais ce qui est très beau, c'est de s'accrocher comme ça à qu'est-ce qui pourrait faire un homme et qu'est-ce qui est la dignité, et d'arriver ce père qui essaye de, dans les 6 jours que va durer ce trajet, d'inculquer à son fils tout ce qui fait la vie d'un homme, d'arriver à lui mettre dans l'esprit, dans la tête, le maximum de la vie humaine. Je trouve ça très très beau. Même si ça n'élude pas, évidemment, la réalité. Il a dit la réalité. Et ça, c'est très important.
Oui, on voit qu'il essaie de lui donner les rudiments, alors, de mathématiques, de français, et puis aussi de philosophie par rapport à la vie, et puis aussi de l'amour. Mmh. On voit qu'il, voilà, essaie de donner une éducation, finalement, de jouer son rôle de père jusqu'au bout, dans ces conditions-là.
Oui. Moi, si vous voulez, quand je suis intervenue dans des lycées déjà sur le spectacle. Et c'est vrai qu'au théâtre de Marly, où on a joué, il y avait en même temps une exposition sur le ghetto de Varsovie. Et j'ai redit aux élèves qu'ils l'avaient vu, ils avaient vu les photos. Mais les écoles qui ont été créées dans le ghetto de Varsovie, Et ça, c'est très important à faire passer comme message, je pense, à des adolescents actuellement qui ont tendance à... Enfin, qui ne savent pas à quel point c'est important, l'école, par exemple, ou le fait de revendiquer une culture humaine, quelque chose de très profond. Et ça, c'est quelque chose qui les a, en effet, tout d'un coup, réveillés, choqués même. Et ça me paraît important. Même si c'est une fable, évidemment. Enfin, une fable, je ne sais pas, parce qu'il y a eu tellement de choses extraordinaires qui se sont passées. Là aussi, j'aurais tendance, moi, à dire, oui, ces deux textes sont des fables, bien sûr, c'est une... Mais en même temps... des choses encore plus extraordinaires ont eu lieu, dans des circonstances extraordinaires.
Voilà. Oui, puis la pièce raconte aussi le renversement des valeurs et comment, alors, comme c'est dit dans la pièce, en ce temps-là, aimer ses enfants, c'était leur mentir, aimer ses enfants, c'était les laisser, s'en séparer. Et puis la mort est finalement une délivrance aussi, et c'est la mort qu'un père peut donner aussi.
Oui, oui. C'est vrai que là, on touche des choses qui sont... unique, je dirais, parce qu'il n'y a jamais eu, ça s'est jamais reproduit de cette façon-là, donc ça a été vraiment tout d'un coup des réactions humaines sublimes et hors normes, et qui sont vraiment importantes à écouter, à entendre, et puis aussi, oui, aussi... être bien à l'écoute de toutes les réactions humaines possibles et réveiller et se réveiller aussi. Notre compagnie, on est beaucoup sur la notion de réveil, de faire des spectacles sur des textes qui sont émotionnels mais qui peuvent réveiller justement.
Et comment on travaille justement quand on est metteur en scène pour lier des textes comme ça qui sont très différents? Qu'est-ce que vous utilisez comme artifice? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour lier ces textes et pour que voilà, le spectateur ait la sensation de voir une pièce qui ne fait qu'un?
Alors au début, par tâtonnement en fait, en répétant, on a testé des façons de se répondre et des adaptations différentes, en fait, en découpant le texte d'une façon différente, mais on n'a rien rajouté au texte. Au départ, Gilles Segal m'avait dit « Ah, mais alors je vais rajouter du dialogue pour que ces deux personnages puissent se rencontrer. » Et puis finalement, on s'est dit « Non, on va d'abord tester qu'ils puissent se rencontrer tel quel, avec les textes qui existent tel quel, et après on verra si c'est possible, quitte à rajouter une situation, mais on n'a pas voulu... étirer une situation, en inventer une plus que ce qu'il y avait dans les textes de base. Et puis finalement, on s'est aperçu que ça cheminait.
Et justement, vous évoquez Gilles Segal. On sait que donc c'est un acteur aussi, pas uniquement un auteur. Et c'est aussi un acteur de pantomime. Et donc il y a un morceau de bravoure dans ce texte.
Oui, il est clown aussi. Il a toute cette chose là qui est tellement vivante et tellement insolite évidemment dans le thème et alors ce que je voulais rajouter c'est que Gilles Segal actuellement joue en ce temps là l'amour au théâtre Le Belleville, donc voilà, si les personnes veulent voir les deux c'est vraiment intéressant je pense de pouvoir comparer, en effet lui joue sa pièce entière qui dure 1h20 et qui est avec une situation d'un homme qui raconte tout ça à son fils qui est émigré aux États-Unis. Donc c'est une pièce différente hein, que ce que nous on a fait comme adaptation. Et je trouve que c'est vraiment passionnant parce que lui, il est génial. Et c'est très beau de le voir interpréter son texte.
Oui, effectivement, donc il y a cette scène. Comment vous avez abordé cette scène qui est d'un moment très clownesque et qui est
alors, d'une façon
le moment le plus tragique
ouais, d'une façon très physique. Alors, exprès, j'ai demandé à Marie-Laure Sperry de commettre en scène avec moi parce qu'elle elle est danseuse, elle est chorégraphe, elle est très sur le physique et je ne voulais surtout pas faire un oratorio ou quelque chose d'une œuvre littéraire, etc. Non, je voulais vraiment que ce soit très impliqué dans le corps. C'est là où, en effet, le fait que ce soit un texte comme ça, où il y ait toute une partie clownesque, est important. c'est aussi quelque chose qui touche aussi des adolescents. C'est très simple, en fait, dans le récit. Très visuel.
Alors, il y a aussi un violoniste qui est sur scène et qui, alors peut-être aussi, participe de cette liaison des deux textes. Comment vous avez décidé de faire intervenir la musique dans le spectacle et comment vous avez choisi les morceaux? Parce que, voilà, il y a beaucoup d'inspirations différentes dans cette pièce.
Moi, je suis fille de musicien, donc j'ai toujours évidemment une connotation musique très importante. Évidemment, le violon tombe de source, mais aussi parce que dans le texte de Daniel Keane, il est question d'un violoniste, une boîte de violon. Et il y a un autre texte de Daniel Keane, une pièce courte que j'adore, moi personnellement. Finalement, on avait pensé la mettre aussi dans le spectacle, mais finalement, c'était plus simple comme ça. Qui s'appelle Le Violoniste et qui est un texte magnifique, je ne sais pas si vous le connaissez, très court, qui dit les derniers instants d'une famille avant qu'ils soient embarqués. Et c'est une vie quotidienne, c'est un petit déjeuner avec des bruits que les trois personnes, le père, la mère, la fille, entendent. Et voilà, et c'est que des petits riens, mais évidemment, dans le contexte, ces petits riens prennent une importance énorme. Daniel Keane, il est toujours sur, comme ça, les petites choses, très comme un impressionniste, une lecture impressionniste. Et je pense que la musique, elle est bien dans ce contexte. Donc il y avait déjà le violon dans ses textes, mais aussi le côté... tisser quelque chose, on avait besoin d'un contrepoint. Enfin, moi, j'avais envie de faire un contrepoint. Et la musique est une troisième voie de ce contrepoint, à part entière, je dirais. Il y avait la question, il y avait Bach, évidemment, qui apparaît dans le texte. Isaïe, et surtout Messiaen, au départ, qu'on avait mis déjà dans la lecture et qui était vraiment une... très belle proposition que m'avait fait le violoniste à l'époque, tout simplement. Et puis Arvo Pärt, à la fin, bon, c'est vrai qu'il a cette notion du train. Il y a quelque chose comme ça, du train, dans cette chose-là. Et Arvo Patres aussi, qui est un thème comme ça, très, très simple et très, je dirais, antique, enfin ancien. Donc on avait voulu mélanger ces choses-là parce que bon, bah, il est question aussi de toute une culture avec des pans différents. Et puis le jeune musicien, il est aussi bien sûr le personnage de l'enfant quelque part. Donc il fallait que ce soit un musicien très jeune. Je l'ai trouvé au conservatoire. Nous avons deux musiciens d'ailleurs en alternance qui sont des élèves du conservatoire que je connais parce que je connais très bien leur professeur qui était élève de mon père.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter aussi, Catherine Hibou, comment vous travaillez avec les lycéens, justement, parce qu'on sent que votre compagnie, que cette pièce se prête très bien à la médiation et à la transmission de l'histoire de la Shoah pour les scolaires. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour travailler avec les jeunes autour de cette pièce, par exemple?
Alors, très concret. J'aime toujours, à chaque fois que je interviens dans des lycées, j'aime vraiment que ce soit concret, que ce soit sur des exercices théâtraux. Exercice d'écriture, exercice théâtraux. Parce que je suis très obnubilée par la parole, par la transmission de la parole et comment on porte la parole. Donc le souffle, la voix, en quoi la voix, elle est ancrée dans ce qu'on veut dire. Donc tout ça est très lié. Il n'y a jamais une discussion avec un thème dont évidemment il est important de discuter avec des jeunes maintenant, sans qu'il y ait aussi comment... on communique sur cette chose-là, comment la parole se transmet, comment des jeunes peuvent se l'approprier et comment ils peuvent eux-mêmes communiquer, eux-mêmes porter de la parole, eux-mêmes revendiquer ce qu'ils pensent. Donc, c'est un équilibrage entre aller les chercher là où ils sont, aller les toucher dans ce qu'ils ressentent et qu'ils puissent s'exprimer. Je donne aussi par ailleurs des stages pour les acteurs professionnels. Donc depuis très longtemps, depuis 1999, je donne les premiers stages que j'ai faits étaient autour de la voix dans le jeu. Et c'est très important parce que très souvent, des lycéens sont inhibés, ils n'osent pas prendre la parole. Voilà. Et ça fait partie du fait qu'on leur fait faire des exercices et puis peut-être que ça va mettre 3 minutes, 5 minutes avant qu'un seul ose ouvrir la bouche pour parler. Mais par des exercices, on arrive, et des choses de groupe, on arrive à ce que la parole circule, se mette à circuler. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau. Et voilà, donc c'est toujours, toujours très concret, très sur des exercices théâtraux. Hein. Voilà.
Et vous évoquez aussi cette question du devoir de mémoire hein, qui revient toujours quand on parle de
bien
la
sûr.
Shoah et qui est quelque chose de très abstrait aussi pour ces lycéens.
Alors, un devoir doit devenir un besoin. Parce que le comment dire, qu'est-ce que c'est qu'un devoir ? C'est quelque chose de très humain. Quelque chose, c'est une réponse. Et ça doit devenir, pour des jeunes, pas quelque chose qu'on leur impose, mais quelque chose dont ils ont besoin fondamentalement. Et c'est la parole que j'ai envie de donner dans les lycées. Et je m'aperçois dans les animations que j'ai déjà faites que ça fonctionne. Parce que tout d'un coup, oui, ils s'expriment. Alors si on leur donne la parole par des petits exercices très légers d'écriture, oui, tout d'un coup, c'est leur mot. Et ils ont besoin d'exprimer certaines choses. Et là, ça touche quelque chose qui va leur permettre d'avoir besoin de ce devoir de mémoire. De savoir que c'est non seulement leur devoir, mais aussi que c'est quelque chose d'important dans leur vie personnelle, à eux.
Merci encore Catherine Hubeau. Donc je rappelle que la pièce Train de pluie dans laquelle vous jouez et que vous avez mis en scène avec Marie-Laure Sperry est jouée au théâtre Côté Cour à Paris jusqu'au 12 janvier. Est-ce que cette pièce va tourner ? Est-ce qu'on pourra la voir ailleurs ?
Alors elle va se jouer au théâtre de l'Octroi à Versailles le 4 novembre à 20h45 et à 14h30 je crois, à vérifier. C'est le théâtre de l'Octroi rue des Missionnaires à Versailles. Elle se jouera aussi en mars au théâtre de la Barbacane à Bennes. Et là, à Paris, donc au théâtre Côté Cour, tous les mardis et jeudis à 19h, c'est au métro Parmentier. Voilà, théâtre Côté Cour. Ça se trouve facilement.
Voilà, puis je profite aussi pour saluer le travail de l'autre comédien hein, qui joue oui. Avec vous, Tommaso Simeoni, donc, qui est très, très présent, très intense dans cette pièce. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.